Vous êtes sur RTL.
Site internet rtl.fr.
Merci Christelle. Vous n'avez pas de pull de Noël encore. Hein, c'est demain et après-demain, ils arrivent.
J'allais chercher de nouveaux colis en face. Il y en a des nouveaux.
Bon, à 13h05, on est avec Philippe. Alors, tout le monde n'est peut-être pas encore au courant. Et c'est important de le dire, c'est un projet de loi qu'on a découvert ce matin. Et il prévoit que le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes à des tests de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée. Donc en clair, ça veut dire que pour monter dans le métro, il faut que tu montres un passeport de vaccin. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai pour les TGV, c'est vrai pour plein de choses. Alors évidemment, ça fait réagir. Et Philippe disait, on est en dictature. C'est ce que vous disiez, Philippe.
Tout à fait. Pascal, je vous pose une question. S'il y a 10 ans, on vous aurait dit comment travailler, si on vous aurait dit comment vous réunir, si on vous aurait dit comment vous déplacer, je suis sûr que vous aurez réagi en disant « mais c'est une dictature, c'est pas une république, c'est pas ce que j'applique, c'est pas la liberté, l'égalité, la fraternité ». Là, on est en train de passer dans une situation qui est purement Orwell. Orwell a fait un film, il l'a scénarisé, il l'a réalisé.
Il a écrit un livre, surtout, Macron, 1984.
Voilà. Et Macron, ben, il est en train de le mettre en place.
Non, mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Ça m'intéresse vraiment au fond des choses. Qu'est-ce qui vous choque?
Ce qui me choque, c'est qu'on n'a plus le pouvoir nous-mêmes de décision. Une république et la liberté pour laquelle on s'est tant battu, qui a généré tellement de morts, fait qu'à la finale, des personnes qui ont la connaissance ou pas la connaissance ou l'information, peu importe la situation, vont prendre des décisions à votre place pour vous dire comment manger, comment boire, comment respirer.
C'est pas exactement ça. Là, en l'espèce, c'est-à-dire, vous devez avoir un vaccin pour les moyens de transport ou certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités. Donc, c'est assez large, d'ailleurs. Donc, certains lieux, ça peut être les restaurants, les théâtres, les cinémas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'entrez peut-être pas au cinéma, sans doute pas dans les transports en commun, etc. Donc, qu'est-ce qui vous choque? Ça m'intéresse précisément de le savoir.
Eh ben voilà, on va avoir deux catégories de personnes. Les personnes qui veulent absolument suivre et qui veulent absolument répondre à cette situation-là. Et ça va être les bons petits soldats, les bons petits élèves. Et puis ceux, pour des raisons diverses ou variées, qui ne veulent pas qu'on s'ingère dans leur liberté de choix, vont être considérés comme des parias. Ils ne pourront plus participer aux bienfaits de la société.
Oui, mais parce qu'on vit ensemble. Parce que, je vais vous dire, la liberté, et après on va passer la pub, mais la liberté, nos libertés, elles sont déjà entamées dans une vie sociale. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Je vais reprendre l'exemple de l'autoroute. Quand vous entrez sur l'autoroute, vous ne pouvez pas dire « je roule à 180 à l'heure ». Donc vous vous pliez déjà à des règles communes qui, par définition, entament votre liberté. Donc là, moi, je vais vous citer un autre exemple. À RTL le matin, quand j'entre, on prend ta température. Toutes les personnes qui entrent dans l'entreprise, il y a un thermomètre sur le front qui est posé, que vous soyez salarié de l'entreprise ou visiteur de l'entreprise. On peut considérer que ma liberté est entamée. Mais je le fais parce que je vis en communauté.
Je l'entends bien. C'est pas... Moi, le problème qui me bloque, c'est du jour au lendemain, on bascule petit à petit, c'est comme un jeu d'échecs. Si on bougeait tous les pions en même temps, tout le monde crierait, c'est la dictature, les libertés sont cassées, etc. Et là, petit à petit, on met un petit pion, puis encore un petit pion, puis encore un petit pion, puis on nous grignote. Vous savez, c'est comme certaines applications dont on parlait en disant que les gens qui parlaient de ça étaient des complotistes. C'était l'application du feu orange, du feu rouge et du feu vert. Si vous êtes vacciné, vous avez le feu vert sur votre téléphone, vous pouvez aller partout, faire ce que vous voulez. Si vous avez le feu orange, c'est-à-dire que vous êtes détecté négatif, mais vous n'êtes pas vacciné, donc on va vous octroyer certains endroits. Et puis si vous n'êtes pas vacciné, et si vous êtes potentiellement une personne à risque, style âgé, obèse, enfin j'en passe et des meilleurs, on est dans une situation où on vous interdira tout.
Je suis d'accord, mais vous avez des enfants, Philippe?
Oui.
Bon,
oui,
vous les avez vaccinés? Le vaccin, il est obligatoire. Il y a 11 vaccins obligatoires en France. Ils ont été vaccinés.
Les 11, non, ça c'est niette. Je vous le dis tout de suite. Je ne ferais pas, si j'avais un... Oui, je sais que c'est devenu obligatoire, malheureusement. Mais bon, on marche à l'envers, mais ça c'est mon problème.
Bah, on marche à l'envers. Mais non, mais c'est amusant parce que déjà, cette liberté, votre raisonnement, je pourrais l'appliquer sur ces 11 vaccins, la diphtérie, polio, etc. C'est obligatoire. Il y a la diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B,
infection.
Vous avez 11 vaccinations obligatoires pour les bébés et les enfants.
Oui,
on continue la discussion.
Enfants,
à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est un sujet inflammable, hein, ce sujet-là, parce que, effectivement, c'est jamais arrivé en France qu'on n'autorise pas quelqu'un qui n'est pas vacciné à entrer dans un lieu.
Réaction au 3210, réaction sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Le projet de loi qui institue un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires fait réagir, et notamment un point en particulier.
Il y a un article qui concentre toutes les critiques. Le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes, leur accès au transport ou à certains lieux, à la présentation des résultats d'un test de dépistage, y compris à l'administration d'un vaccin.
Alors, un vaccin pour se déplacer, qu'en pensez-vous? Eh bien, après une telle proposition, écrit Tchitch sur la page Facebook, on s'étonne de rencontrer autant d'anti-vaccins. Un Premier ministre ne peut pas s'accorder autant de pouvoir. On remet en cause notre liberté. Colère aussi de Micheline. Ils feront tout pour nous obliger à nous faire vacciner. Sommes-nous toujours en démocratie? Demande Jacques. C'est dingue, réagit Hugues. Même pendant les fêtes, on nous embête. Il sait choisir le bon moment, réagit aussi avec ironie Fabrice. Et Cécilia s'énerve. Je pouvais comprendre les restrictions de liberté jusqu'à maintenant, mais là c'est trop. Ils réfléchissent ou pas au gouvernement? Demande Benoît. Comment augmenter la colère des anti-vaccins? Ils ont créé tout seul une nouvelle polémique.
Irène est avec nous qui habite Lyon. Bonjour Irène.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Bon, alors, écoutez, j'ai écouté votre auditeur précédent. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette histoire de passeport, c'est que, du coup, c'est une manière comme une autre d'obliger les gens de se faire vacciner.
Nous sommes d'accord. Voilà. Je partage assez votre avis.
Ils ont trouvé la parade. Donc, en fait, moi, ce qui me gêne terriblement, c'est qu'on va être interdit de toute forme de sociabilité. On va être des pestiférés. Moi, je suis offusquée. Et vous savez, ce qui me gêne en plus, c'est que j'ai quand même entendu une restauratrice qui a dit que de toute façon, elle serait très contente que ça se passe comme ça, elle n'aura chez elle que des gens qui ne peuvent pas être malades. Sauf qu'à l'heure actuelle...
Elle pense à son métier. Elle a envie de rouvrir le plus vite possible. Monsieur, vous êtes restaurateur, évidemment,
Pascal,
vous dites...
Pascal, et vous croyez quoi? Que des gens vont arriver, être immunisés à l'heure actuelle avec la mutation du virus? On ne sait même pas si on va être immunisé contre cette maladie, déjà d'une part.
On sera immunisé, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ça les limites du vaccin, c'est qu'on ne sait pas s'il est contagieux ou pas. C'est-à-dire qu'on sera peut-être immunisé, ce qui est la base d'un vaccin, mais en revanche, il est possible qu'on puisse transmettre le virus. C'est ça qui n'est pas réglé.
Non, mais de toute façon, ça ne sera pas réglé. Enfin, en attendant, je trouve que c'est une parade du gouvernement, que je trouve inadmissible, hein, parce que, bien entendu, vous savez, à l'heure actuelle, personne ne parle, mais... les homéopathes au 1er janvier, suppression des remboursements, l'herboristerie supprimée, les huiles essentielles, on est en train de nous mettre un procès.
C'est un autre sujet. Mais ce qui m'intéresse, Irène, par exemple, vous, pourquoi au fond, vous avez peur du vaccin?
Alors, moi, ce vaccin, bon, me gêne un petit peu, puis il me gêne dans le sens où, d'abord, on n'a pas de connaissance sur ce genre de dossier, même si ce corona existe depuis déjà les années 2000 et qu'il travaille dessus.
Mais vous n'avez pas foi en la parole publique. C'est ça qui est intéressant, parce que moi, je suis comme vous, je connais rien en vaccin, je connais rien en ARN, je savais même pas que ça existait il y a trois mois, etc. Si les autorités sanitaires me disent, c'est bon, moi j'y vais.
Je peux y aller.
Je ne sais pas si j'y vais tout de suite, mais je peux y aller.
Moi, je vais vous dire que du coup, je n'ai plus du tout confiance en fait à ce gouvernement. Je n'ai plus confiance à la manière dont a été traitée cette épidémie.
Ça, c'est pas le gouvernement. Parce que Pfizer, c'est pas le gouvernement.
Non, mais je parle même du gouvernement. Donc, en fait, on est en train de nous faire des éloges sur quelque chose que même le gouvernement ne sait pas. Ils ne se sont pas entourés de meilleurs scientifiques. Il y a de très bons scientifiques, mais on les a mis de côté également. Donc, moi, la question que je me pose, c'est comme je pense surtout du côté autoritarisme, en fait, mené par le gouvernement, qui me gêne beaucoup, parce que quoi qu'il en soit, ils nous disent que le vaccin ne va pas être obligatoire. Et c'est là que l'on ne peut pas croire la parole de notre président de la République, puisqu'en fait, ils vont trouver cette parade. Et vous vous rendez compte, je me dis, mais où est la liberté?
Je vais reprendre Irène. La liberté, elle est entamée à chaque moment de votre vie. Je suis dans une entreprise, je ne peux pas fumer à l'intérieur de l'entreprise.
Après, parce que du coup,
je ne peux pas fumer dans un restaurant.
Oui, mais ça me gêne pas, ça.
Bah oui, parce que vous fumez pas, peut-être.
Mais si, parce que je suis fumeuse, et ça ne m'a jamais gênée, parce que même en étant fumeuse, je n'ai jamais supporté l'odeur de cigarette dans les restaurants quand on avait l'autorisation de fumer.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on vit ensemble, il y a plein de libertés qui sont entamées, c'est ça que je veux dire.
Je suis d'accord avec vous, sauf que là, on est en train encore de nous en mettre des couches supplémentaires, et là, ça suffit. Là, nous en avons tous ras-le-bol. Il y a une pétition qui est en cours sur le.
J'ai vu. Alors, restez, voilà. Irène, parce que Amine va essayer peut-être de vous convaincre, parce que j'ai l'impression qu'Amine, c'est notre premier auditeur qui n'est pas choqué par cette disposition. Bonjour, oui, Amine.
Oui. Bonjour, Pascal. Merci de m'avoir laissé la parole. Et je voudrais justement répondre à votre auditrice et lui dire que justement, la liberté individuelle, elle s'arrête lorsqu'elle impacte sur les autres. Ici, le gouvernement, je ne pense pas qu'il veut interdire le droit de ne pas être vacciné, mais il veut interdire, il veut préparer, limiter les effets de ce choix sur les autres. Puisque n'oublions pas que vous pouvez toujours être porteur du virus sans présenter le moindre symptôme. Et ici, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de dire, vous avez le droit de ne pas être vacciné, vous avez le droit de ne pas faire le choix de vous vacciner, mais vous n'avez pas le droit, en revanche, de faire payer ce choix individuel sur les autres. Et moi, je trouve que cette réaction est typiquement française. Elle est très égoïste. Et je rappelle qu'à Wuhan, dans l'épicentre où s'est propagée l'épidémie de coronavirus, on ne porte plus le masque aujourd'hui. Il n'y a plus de gestes barrières. On a retrouvé la vie d'avant parce qu'on a respecté collectivement les règles sanitaires. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut renoncer partiellement pendant un petit bout de temps, Pascal, pendant un petit bout de temps à nos libertés publiques pour ensuite, retrouver la vie en société comme avant.
Irène ?
Oui. Mais oui, non, mais j'écoute, vous savez, j'entends, parce que je veux dire, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Ce qu'il y a surtout, c'est que je suis d'accord avec ce monsieur sur certains points. Par contre, je vais vous dire que l'obligation des vaccins qui ont été faits aux enfants, moi, à l'heure actuelle, est-ce que vous, monsieur Pro, vous êtes vacciné contre la polio ?
Ah oui, je suis vacciné, alors là, franchement,
vous êtes entièrement vacciné.
Ah,
vous êtes
alors là, vacciné. Je suis allé me faire des rappels jusqu'à 18 ans, mais moi, j'étais, voilà.
Oui, mais
là, il n'y avait pas de souci. Mais ouais, bon, mais toutes les familles, sans doute, n'étaient pas comme cela, mais.
Oui, non, mais.
Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, méningocoque de sérogroupe C, rougeole, oreillon, rubéole, j'ai tout eu.
Bon, écoutez, moi, ce qu'il y a surtout, c'est que, du coup, pour revenir sur la discussion de l'auditeur précédent, là, que je viens d'entendre, je vais vous dire une chose aussi, c'est que si on prend des précautions, je pense que des précautions, on en prend tous depuis très très longtemps. Je veux dire, vous êtes une personne éduquée, vous vous lavez les mains, vous allez aux toilettes, vous vous lavez les mains. Je veux dire, il y a plein de choses, en fait. Il y a toute une éducation. Moi, je porte le masque quand je suis dehors. Quand je suis toute seule en train de randonner, je ne porte pas le masque. Mais là, je ne contamine personne.
Bon. Une page, une pause.
Moi, j'essaie quand même un petit peu de respecter les gens. Voilà.
Une pause, mais c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, Irène, parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, on peut ne pas se faire vacciner et en même temps respecter les gens, ça bien sûr, et je ne vous jetterai pas l'anathème. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est un sujet passionnant parce qu'il est d'une simplicité biblique et tout le monde forcément a un avis dessus. Est-ce qu'il faut un vaccin pour se déplacer? Et c'est le projet de loi du Premier ministre qui pourrait subordonner les déplacements des personnes, leurs accès aux moyens de transport à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation d'un test. Et évidemment, ça vous fait réagir parce que bien sûr que ça entame nos libertés objectivement. Ça entame les libertés. Mais est-ce que c'est pour la bonne cause et est-ce que c'est légitime? Voilà la question. Michel est là. Michel qui est infirmier et qui habite le Havre.
Oui, bonjour. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Oui, moi je vous téléphone pour vous dire que je comprenais la logique du gouvernement. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a eu quand même 60 000 morts du Covid. Qu'il y a un vaccin qui va être mis en service dans peu de temps. Et que, en fait, il y a une espèce de peur qui s'installe dans le pays en disant les effets secondaires, Quand on voit le nombre de morts qu'il y a eu, franchement, il y a même pas à réfléchir, on se vaccine, et puis voilà. D'autant plus que ce vaccin-là, c'est une nouvelle forme de vaccin, hein, c'est carrément du génie génétique, hein, parce qu'ils prennent un morceau d'ARN, ils le transforment, ils vous l'envoient dans la cellule pour reproduire une protéine. Hein, c'est même pas le virus inactivé qu'on vous injecte, c'est un morceau d'ARN. De façon infime, c'est tout à fait infime. Quand je vois les chiffres des risques potentiels des effets secondaires sur le vaccin, on parle d'un effet secondaire pour 400 000 vaccinations.
Mmh. Et on parle Alors si ça tombe mort, sur vous, évidemment, c'est ennuyeux. Bah
oui, c'est ennuyeux. Après, c'est un bénéfice-risque que les chercheurs...
Non, mais pour la société, c'est parfait. Mais quand ça vous tombe dessus, vous, quand c'est vous, le 1 sur 400 000...
Oui,
c'est ça qui est...
Il faut bien savoir aussi, c'est qu'il y a une personne qui meurt sur 10 000 du Covid.
Oui, oui.
On n'est plus dans la même...
Non, mais la difficulté de ce vaccin, c'est pour ça que... et de cette maladie, c'est que la variole, vous savez que vous faites un vaccin, parce que si vous chopez la variole, vous êtes mort.
Oui.
Le Covid, vous avez 25 ans. Si vous chopez le Covid, a priori statistiquement, ça va bien se passer. Donc il va aller falloir,
a priori statistiquement,
on est d'accord.
Oui.
Donc toute la difficulté, c'est de convaincre des gens qui n'auraient rien avec le Covid, nous sommes d'accord, ou pas grand chose, oui, qu'il faut qu'ils se vaccinent pour deux choses. D'abord qu'ils ne transmettent pas, donc c'est pas tant pour eux que pour les autres. Et ensuite parce qu'effectivement, ils ne pourraient pas aller dans tous les lieux ensuite. Vous voyez, c'est pas la même chose que la peste bubonique ou la variole. C'est la spécificité de cette maladie.
Je sais bien, je la connais bien. Moi, je suis désolé, mais il y a quand même 60 000 personnes qui sont mortes.
Je vous répète les exemples que je cite.
Oui.
Vous allez dire à quelqu'un de 22 ans, tu risques pas grand-chose, mais il faut que tu te vaccines quand même.
Oui, mais comprenez bien une chose, c'est que si on a eu que 60 000 morts, c'est parce qu'il y a eu des mesures de confinement, des mesures qui ont été prises. On n'a jamais vu ça dans toute l'humanité. On a confiné, on saccage les économies de tous les pays, on saccage beaucoup de choses pour avoir que 60 000 morts. Imaginez si tout ça n'avait pas été fait. On serait à plusieurs millions de morts.
Non, pas plusieurs millions. Il y a 250 000 morts aux États-Unis dans un pays de 350 millions alors qu'ils ont respecté aucune règle.
Si, certains États ont respecté certaines règles.
Oui, mais pas des millions de morts. Je pense pas. Enfin, je suis pas un épidémiologiste,
Au départ, quand j'ai eu les premières informations, les premiers chiffres, j'ai fait les calculs. Ouais, sur la France, on était à 800 000 morts.
Bah écoutez, moi c'est un chiffre que j'ai jamais entendu. Mais peu importe, j'ai envie de dire, parce que c'est pas notre sujet. Notre sujet qui est une question de fond, là, et chacun peut avoir un avis. Donc vous ferez vacciner, évidemment, Michel, c'est ce qu'on comprend. Et Charles est là, alors Charles qui habite Montpellier. Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez notre discussion depuis 13 heures, votre sentiment?
Absolument. Bah écoutez, moi je pense que ce qui nous guide depuis le départ par rapport à ce virus, c'est quand même notre propre santé. C'est pour ça qu'au début de l'épidémie, on s'est battu pour avoir des masques, du gel hydroalcoolique, on a désinfecté nos courses, on a voulu protéger notre entourage, notamment nos aînés, etc. Donc ce qui nous guide, le maître mot, en dehors de toute la cacophonie en termes de prise de discours sur ce qu'il faut faire, pas faire, etc., la méconnaissance du virus, qui guide les gens, c'est leur santé. Voilà. Donc, je pense que l'autoritarisme dont pourrait faire preuve le gouvernement, en fait, je pense qu'ils ont complètement loupé le déconfinement. Ils auraient dû être autoritaires, y compris maintenant, parce que on a tous été témoins de personnes qui bafouent constamment le protocole sanitaire depuis le départ jusqu'à maintenant. Voilà, il y a des personnes qui le bafouent. Voilà. Alors ça, par contre, c'est vrai que ils auraient pu multiplier les contrôles.
C'est pas tout à fait notre sujet du jour, mais...
Tout à fait, je vais y venir. Je vais y venir, figurez-vous. ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait qu'il y a des secteurs économiques qui sont en souffrance. On a tous dans notre entourage des restaurateurs, des patrons de bars, enfin des personnes qui sont au bord de la faillite ou même qui ont déjà déposé des bilans, etc. Depuis le début, c'est la santé, c'est notre santé qui compte. On s'est tous dit que cette épidémie, on arriverait au bout de cette épidémie grâce à un vaccin. Voilà. Pour déclencher une immunité collective. Donc, là-dessus, on est à peu près d'accord. Moi, je serais d'accord avec le gouvernement si j'étais sûr que ce vaccin, en fait, ne présente aucun danger et qu'il est sûr à 100%. Quand je dis à 100%, c'est que c'est pas tout à fait 100%, on est bien d'accord. Mais moi, je veux être sécur. Pourquoi ? Parce que le maître mot, c'est ma santé. Et c'est ce qui nous guide depuis le départ.
Il y a déjà beaucoup de gens qui ont été vaccinés pour le moment et on commence à avoir un peu de recul depuis une quinzaine de jours.
Oui, mais pas suffisamment. Pas suffisamment.
Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne se fait jamais vacciner, alors ? Dans votre système, alors, on attend 10 ans.
Pas du tout. Mais quand vous avez des médecins qui disent « Ah ben non, moi je vais attendre un an », ou quand vous avez des politiques qui disent « Ah ben non, moi je vais pas me faire vacciner maintenant, je vais attendre un an », etc., c'est encore, si vous voulez, cette cacophonie autour du vaccin qui crée de la confusion et qui va engendrer des réticences dans la population. Et des réticences justifiées.
La pause et on continue le débat ensemble.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On fait une petite parenthèse sur notre sujet, c'est auditeur de Noël, on est le 22, il reste deux jours. Deux dodos on dit ? C'est Amandine Bégaud oui. qui disait ça ce matin, il reste deux dodos avant Noël. Donc mardi soir et mercredi soir, il reste deux dodos.
Parce que Amandine, c'est le compteur, Amandine Bégaud, le compteur officiel des dodos avant Noël.
Eh bien écoutez, on la salue Amandine. Nous sommes avec qui ? Avec Nathalie ?
Bonjour Pascal.
Bonjour, qui nous a contacté par la page Facebook. Bonjour Nathalie, votre souvenir de Noël.
Alors mon plus beau Noël, c'était en 2014. Je suis allée rejoindre mon compagnon qui vit aux Antilles et qui est skipper aux Grenadines. Donc je n'étais pas une milliardaire sur un yacht. J'ai fait l'hôtesse, un nouveau métier. Et on convoyait des personnes, donc 6 à 8 personnes, et on allait donc d'île en île, des gens merveilleux. Et ma petite île préférée, c'est l'île de Méro, pour ceux qui connaissent, 4 km² d'envergure et 300 habitants, avec un petit orphelinat et une église, où il y a un prêtre qui va d'île en île pour faire la messe de minuit. Donc il y avait beaucoup plus de personnes dans le jardin de l'église que dans l'église qui était toute petite. Voilà.
Ah, mais c'est joli ça comme souvenir de Noël, Nathalie. Et il est où le skipper en ce moment ?
Eh bien, il est aux Antilles.
Et vous n'y êtes pas ?
Non, et mes filles sont en Nouvelle-Zélande et en Australie, voilà. Donc je ne risque pas de choper quoi que ce soit.
Bon. Mais vous allez peut-être, vous n'allez pas voyager là, vous n'allez pas partir non. pour les Antilles. Parce qu'en Guadeloupe et Martinique, hein, la vie est. Et en tout cas, en Guadeloupe, la vie est ouverte. Hein, tout est ouvert.
Ah oui,
tout
mais
est
même
ouvert,
en Martinique, hein. tout à fait.
Et en Martinique
mais,
aussi.
Mais bon, mon gros problème là, cette année, c'est que j'ai un chien qui a 15 ans et qui ne peut plus prendre l'avion. Donc voilà.
Ah oui, bah, écoutez, alors c'est formidable. Ah. Et vous pensez à votre chien, effectivement, et je comprends. Je vous comprends, priorité. Effectivement. Tout je vous fait. Comprends. Qu'est-ce que c'est comme chien ?
C'est un petit York Griffon qui a 15 ans, qui a perdu son frère au mois d'avril et qui finit sa petite vie.
Ouais, 15 faire, ans, c'est fragile.
Ouais.
La chanson de Noël, puisque avant les cadeaux, le cadeau de Grégory Carannoni qu'il va vous offrir, mais la chanson que vous avez choisie de Noël.
Moi, c'est La fille du Père Noël.
De Jacques Dutronc.
Oui.
C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar.
C'est pas vraiment une chanson de Noël, mais bon, on aime quand même, parce que c'est
mais
du tronc.
C'est un petit peu mon esprit, donc voilà.
Vous êtes rock ?
Oui, puis je suis plus côté quart zéro au niveau idéologique que tu me refuses, quoi.
Voilà. Quel est le rapport avec quart zéro ?
Ben, je l'ai entendu hier et j'ai dit je suis tout à fait d'accord avec lui.
Bon, Tino Rossi qui n'est plus de ce monde depuis 1983 et petit papa de Noël. Bon, Nathalie, le cadeau.
Alors, je suis un peu gêné, Nathalie, parce que j'ai un cadeau qui est extraordinaire, mais j'ai l'impression que vous n'avez pour l'instant pas de petits-enfants.
Non.
Ou des enfants très grands. Bon, voilà. Alors en attendant leur arrivée, vous le garderez bien au chaud, ce cadeau peut-être. Je vous offre un coffret Ricky Zoom. C'est une petite figurine qui est une moto, en forme de moto.
Ouais, c'est pas terrible votre truc là, Ricky Zoom, écoutez, pour Nathalie. Mais vous avez des petits neveux?
Non, plus.
Ah bah, pas de petits-enfants. Bon.
Je peux essayer de... Peut-être une montre RTL en bonus.
Ah
bien sûr. Non, le petit Ricky Zoom, mais je suis sûr que vous allez...
Non, mais Ricky Zoom, c'est super, parce qu'en plus...
C'est quoi, Ricky Zoom?
Ricky Zoom, c'est une petite moto. Mmh. Il y a une nouvelle saison du dessin animé qui est sortie sur Gulli, en plus, au début du mois de décembre. Mmh. Le dessin animé fait un carton auprès des enfants de 3 à 6 ans. Mais malheureusement, en effet, si vous n'avez pas de petits-enfants, vous pourrez le garder au chaud. Ça aura peut-être du succès quand vous aurez des petits-enfants, Nathalie.
Mais d'accord, pas de soucis.
Vous êtes un bon vendeur, Grégory Carannoni.
Il a fait les fonds de tiroir.
Non, mais bon, merci, Greg Carannoni. Est-ce que nous marquons une pause à 13h36 pour retrouver cette polémique du vaccin qui nous fait beaucoup réagir, évidemment, puisque certains y voient une entame aux libertés. Je le dis depuis le début de l'émission, mais c'est objectivement vrai. Mais dans les sociétés, parfois même dans certains moments particuliers, on peut accepter de réduire nos libertés si c'est légitime et si, effectivement, s'il y a un objectif commun, si c'est pour la bonne cause, comme dit l'autre. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous ne savez peut-être pas l'objet de notre polémique du jour, mais on parle d'un projet de loi que nous avons découvert ce matin et le Premier ministre pourrait, le cas échéant, subordonner les déplacements des personnes à un vaccin. On irait dans un lieu, dans un transport en commun, on irait on pourrait faire certaines activités uniquement si on est vacciné. Alors, c'est objectivement, je le dis depuis 13 heures, une liberté entamée. Nous sommes avec Paul, qui est chef d'entreprise et qui voulait réagir sur ce sujet. Alors, bonjour Paul.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être
oui,
là.
Oui, je voulais réagir parce que le système de mettre, vous savez, des carnets de vaccination pour voyager ou quoi que ce soit, on a l'impression qu'on retombe, vous savez, dans la prohibition 36 aux États-Unis. À chaque fois qu'on interdit quelque chose, on s'aperçoit qu'il y a des... Comment dirais-je ? Qu'il y a des, par exemple, pour les bars, pour les restaurants, il y a des soirées clandestines, et ça, c'est très, très mauvais. Et on va aller de plus en plus vers ce système. Le gouvernement interdit de plus en plus de choses, et vous allez avoir de plus en plus d'organismes mafieux qui vont en profiter, c'est tout.
Mais là, je vous saisis mal et je comprends pas. En plus, c'est pas vraiment notre sujet. Moi, parliez de carnet de vaccination, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on est tous, à RTL, beaucoup de journalistes ont été contraints.
Oui, ils sont vaccinés, moi aussi.
Mais ils ont été contraints, surtout pour aller dans certains pays, d'être vaccinés.
Oui, mais avant, vous étiez vacciné, on n'a jamais demandé un certificat de vaccination. Si, par exemple, vous voyagez, vous partez en Australie, à l'époque, on ne vous demandait pas si vous avez été vacciné ou quoi que ce soit.
Non, vous avez raison.
Là, on va le faire.
Oui, mais alors, c'est ça qui m'intéresse. Mais ça vous choque?
C'est gênant. C'est gênant parce que notre liberté, on va nous demander... Alors, imaginez que vous oubliez. Vous partez en voyage, vous oubliez votre carnet de vaccination, ce qui peut arriver. Comme des fois, il y a des gens qui oublient leur passeport. Vous allez arriver à l'aéroport.
Enfin, vous avez deux choses à penser quand vous voyagez. Généralement, c'est le passeport et puis là, il y aura la vaccination. Si vous arrivez à l'aéroport sans passeport, effectivement, c'est compliqué.
Non, mais c'est déjà arrivé. Mais là,
sûrement.
Le carnet de vaccination, ça me gêne. Ça me gêne. Si on n'a pas, je ne sais pas... Chaque être humain est différent, donc il y a des gens qui attrapent, c'est vrai, c'est malheureux. Ce qu'on oublie de dire, tout à l'heure, j'ai entendu un de vos téléspectateurs qui disait, du moins un auditeur qui disait, il y a eu 60 000 morts pour le Covid. Oui, d'accord, mais moi je suis désolé, on n'entend plus les morts de maladies cardiaques, on n'entend plus les morts de ceci, de cela, et c'est ça qui est grave. On devient des moutons de panurge, on nous dit ça, et puis voilà, on n'a plus la critique, on a la libre pensée de faire ce qu'on veut. C'est ça qui est malheureux. Maintenant, je vais vous dire honnêtement...
J'ai l'impression d'être en boucle parce que dans une société, on ne fait pas ce qu'on veut déjà, Paul.
Mais oui, non, mais on vit. Moi, j'ai de la famille, je vais vous dire, qui travaille dans les laboratoires qui font dans les acides nucléiques. C'est le système pour les ARN. Eh bien, ils me disent, faire un vaccin en 6 mois, en 1 an, c'est quand même dangereux. Et le problème, c'est qu'on va trop vite. On met la charrue toujours avant
alors
les
deux. Alors ça, vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que, évidemment, ça, ce serait un argument. Si on t'explique que le vaccin est dangereux, c'est un argument fort. Mais moi, je pars du postulat, et peut-être suis-je naïf, peut-être ai-je tort, que si on met ce vaccin sur le marché, il n'est pas dangereux. Et autant on a pu avoir depuis 6 mois des différences sur le sanitaire, sur le médical, sur la gestion de la crise, autant on pourrait au moins se réconcilier sur le vaccin. De dire tous, effectivement, ce vaccin, il n'est pas dangereux, peut-être ne sera-t-il pas efficace à 100% pour tout le monde, mais il n'y a pas de risque. Parce que si on remet en question la possible nocivité d'un vaccin, j'ai peur que ça nous emmène dans un climat de défiance qui soit trop important. Et pas justifié, en plus.
Oui, oui, je suis un petit peu d'accord. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de vaccins qui veulent être sur le marché. Ça, c'est inquiétant, par contre.
Et oui, mais on a des autorités. Il y a un moment, t'es obligé. Personne n'est obligé à rien, mais tu peux quand même faire confiance à toutes les autorités mondiales sanitaires, à Pfizer, qui joue quand même aussi sa réputation, parce que si Pfizer, il y avait le moindre souci, vous imaginez, pour cette société. Mais donc oui, je suis justement plutôt enclin à penser que ce vaccin soit efficace.
Oui, mais ça je suis d'accord, mais par contre, je ne sais pas si l'information était bonne ou pas, mais j'ai entendu dire que les laboratoires avaient mis une clause.
C'est vrai.
Comme quoi, ils n'étaient pas responsables des effets secondaires ou ce qui pourrait arriver par la suite.
Oui, alors c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'ils sont responsables des effets secondaires, mais en tout cas, ils peuvent l'être. Mais il faut peut-être rechercher effectivement précisément cette clause. Merci, Paul.
Voilà,
Laurent est là. Et alors, ça fait réagir. Globalement, nos auditeurs sont quand même contre cette idée. Hein. Il y a une grande tendance quand même qui s'affiche. Globalement, alors je ne sais pas si c'est uniquement eux qui appellent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Bonjour, Laurent.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. Moi, je vais essayer de garder la tête froide. Ce projet de loi, vous parlez régulièrement, puis je pense qu'on peut pas vous taxer d'être un journaliste d'extrême gauche ou d'avoir des idées très très obtus. Vous parlez régulièrement d'infantilisation, et là, je pense qu'on est toujours en infantilisation, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont des sachants, comme on dit maintenant, et qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc on vous dit vaccinez-vous, les gens sont méfiants, ce qui est normal, à mon sens, puisqu'on ne peut pas vous obliger à vous vacciner, on trouve un moyen différent. Donc on rejoint votre sujet de la semaine dernière avec le passeport vert, et avec la dame qui disait bon, il serait très simple de mettre une étoile verte. Donc là, moi, ce que je propose, c'est la création d'un organisme qui serait chargé de vérifier que vous êtes bien vacciné. Et on pourra appeler ça, vous allez trouver que je suis très fort, hein, bon, mais on pourra appeler ça une milice. Voilà, on en arrive à des sous couvert de protection des gens. On sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous, et donc on vous impose un choix. Voilà, c'est une façon de rentrer par la fenêtre. On rejoint le même principe que le référendum sur la Constitution européenne. Puisque ça ne marche pas dans un sens, on vous le fait passer par la fenêtre. Ça ne marche pas par la poste, par la porte, on vous fait rentrer le truc par la fenêtre. Et on vous l'impose. Écoute, et je trouve que ça commence à sentir très mauvais quand même.
Mais ce que je trouve très paradoxal là-dedans, pardonnez-moi.
Oui.
En fait, vous dites le gouvernement impose une forme de dictature, en tout cas, attaque les libertés, mais c'est précisément pour que tout le monde soit dehors et que tout le monde retrouve une vie normale. Donc, le but du gouvernement, c'est d'ouvrir tout, que tout le monde soit dehors, que tout le monde aille partout, mais effectivement, ça passe par une sorte de précaution, en l'occurrence sanitaire et médicale. Donc, c'est pas exactement ça, une dictature, quand même.
Ah, mais je n'ai jamais dit que c'était une dictature. Je dis que ça commence, sous couvert de prendre soin de vous, on commence à vous faire avaler des couleuvres. Attention. la tendance commence à sentir mauvais. Quoi,
oui,
voilà.
Mais, comment dire, moi, j'ai défendu, par exemple, que les restos restent ouverts, que les théâtres ouvrent le plus vite possible, que les cinémas rouvrent. Si le passeport médical, le passeport vaccinal permet d'ouvrir plus vite. Je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que j'essaie d'être cohérent avec ce que j'ai dit les semaines dernières.
Oui, mais on ne vous impose pas un système vous permettant d'accéder à ça. De toute façon,
Je pourrais ne pas me faire vacciner si je veux, mais bon, j'entre pas dans un cinéma.
Et dans ce cas, je n'y vais pas. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans ce cas-là, je ne vais pas au théâtre, je ne vais pas.
J'y vais pas. Alors, pendant combien de temps ? Je ne sais pas si c'est 6 mois, 1 an. Après, il y aura le droit de revenir, j'imagine. Mais
ça, c'est votre choix.
Quand l'épidémie sera
disparue.
Bon, je regardais la clause, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, la clause. Effectivement, dans la réalité, comment dire, il n'y a pas de, la responsabilité juridique ou financière des labos, elle n'est pas exonérée. Hein. Effectivement, là aussi, il y a beaucoup de fake news là-dessus. C'est important de le préciser. Il n'y a pas d'accord entre l'Union européenne et les laboratoires pour exonérer la responsabilité juridique ou financière des labos. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Un vaccin pour se déplacer, manifestement, ça vous fait réagir et vous êtes contre. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Jean-Charles, qui est délégué pharmaceutique en Côte d'Or. Donc vous êtes dans le milieu, Jean-Charles.
Oui, bonjour, monsieur Pro.
Bonjour.
Je trouve que vous êtes bien. Gentil avec le gouvernement en disant que vous faites confiance effectivement aux agences de santé pour vous garantir que le vaccin n'a aucun effet secondaire. Vous n'en savez rien. Vous avez reçu sur vos plateaux, vous avez reçu à vos émissions des tas de médecins. Jamais quelqu'un vous a dit ce qu'il y avait dans le vaccin. Jamais. À ce jour, on ne sait pas. On ne sait pas quels sont les effets secondaires de ce vaccin à 1 an, 2 ans. 3 ans, 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien du tout. On nous dit que c'est un vaccin, on nous présente ça comme quelque chose de gentil, qui va effectivement ne pas modifier votre génome. Mais là, aujourd'hui, moi je fais une confiance, je n'ai aucune confiance en ce vaccin. Et de là à en venir maintenant à passer des lois liberticides pour dire aux gens, vous pourrez aller au Cinoche, vous pourrez aller assister à un match de foot, vous pourrez aller assister à un rencontre de Nice que si vous êtes vacciné, eh bien jamais de la vie. Jamais de la vie. Là, on est dans le contrôle social. Hein, on est dans le contrôle social qui ne dit pas son nom. On est dans un gouvernement de dingue, monsieur Pro, un gouvernement de dingue. Et moi, à ce moment-là...
Gardons quand même les mots. Hein. J'interviens uniquement comme modérateur.
On est dans un gouvernement de dingue.
Faisons attention, peut-être dans une époque de dingue.
Mais l'époque de dingue, elle est faite aujourd'hui par notre gouvernement, monsieur.
Jean-Charles, moi j'ai été souvent sévère à ce micro sur plein de décisions qui ont été prises. Donc franchement, si vous dites que je défends le gouvernement, j'ai envie de dire
non,
tant
vous,
mieux
vous
pour
êtes
une fois.
Vous êtes intolérant en disant fois, que le tolérant. Vaccin, faites confiance.
Ce voilà, qui nous tout. Diffère fondamentalement entre vous et moi, c'est effectivement quand Axel Kahn, que j'ai entendu plusieurs fois sur RTL, dit avec toute l'autorité qu'il a, le généticien qu'il est, l'expérience qu'il a acquise, quand il dit ce vaccin, vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a un moment, effectivement, je lui fais confiance.
Quel conflit d'intérêt, hélas, monsieur. Vous connaissez ces conflits d'intérêt?
Mais je n'imagine pas cela. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'âme complotiste.
Je pense qu'il n'en a pas pour tout dire.
Mais je pense qu'il n'en a pas, Axel Kahn, c'est une personnalité.
Vous n'en savez rien.
Ben, je vais vérifier si vous voulez à l'instant. Vous me posez au débotté, je ne peux pas vous répondre précisément, mais je pense qu'il n'en a pas, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que ce vaccin, il vient percuter, au fond, nos ADN, si j'ose dire. J'ai l'impression qu'il y a des gens, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, effectivement, on n'a pas de recul sur ce vaccin sur 10 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Charles? C'est quoi votre solution?
Eh bien, on laisse la liberté aux gens de gérer leur santé. Jusqu'à présent, j'ai pas besoin qu'un gouvernement me dise comment je dois m'habiller, comment
non,
je
c'est
dois
pas,
manger.
C'est pas, d'abord, le gouvernement ne dit pas comment vous devez vous habiller. Vous avez des enfants?
Oui, j'ai 3 enfants, bon. Mais ils sont maintenant sur le marché du travail, ils sont très
Est-ce
grands.
Est-ce que vous les avez vaccinés quand ils étaient
Alors,
petits?
Je vais vous raconter une anecdote. J'ai vacciné mon fils du vaccin contre le BCG.
Oui.
Il a fait une réaction au vaccin, 4 heures de paralysie des membres inférieurs. Il a développé derrière ce vaccin des molluscums. Il a développé derrière ce vaccin un staphylocoque. Et il a développé derrière ce vaccin un diabète insulino-dépendant.
Donc
ça
effectivement, pour vous... Ça, alors, non mais c'est intéressant de vous écouter
vous
parce que... Ben, ça ne me parlez pas comme ça. Évidemment que je trouve que c'est dramatique, Jean-Charles. Mais je comprends, et c'est pour ça que chaque individu est différent, je comprends que le mot « vaccin » provoque chez vous quelque chose comme une allergie. puisque effectivement, il vient percuter une histoire personnelle que je ne connaissais pas. Donc là, je peux vous comprendre, bien sûr. Je peux comprendre ce que vous dites, que vous avez un rapport au vaccin que d'autres n'ont pas.
Ben oui, mais à partir du moment où les gens ne savent pas ce qu'il y a dans les vaccins, si vous disiez aux gens
savent,
dans les vaccins...
Pardonnez-moi, je n'ai pas répondu, mais évidemment qu'on sait ce qu'il y a dans ce vaccin.
Ah
je suis incapable
vous
de
savez
vous dire...
que dans les vaccins, il y a des thiomersales, il y a des oxydes de
d'aluminium... Mais je ne connais rien à cela. Mais je connais rien à cela. Mais je sais que certains savent que... je sais une chose,
et
c'est
Et que si les vaccins sont efficaces, c'est uniquement parce qu'il y a tous ces adjuvants pour faire réagir le système immunitaire. Quand vous faites des vaccins...
Non mais Jean-Charles, vous êtes un anti-vaccin. Bon, ben pourquoi pas d'ailleurs.
Non monsieur, je me suis informé. Je me suis informé.
Bon, bah, d'accord, mais vous ne vous vaccinez pas contre la grippe?
Absolument pas.
Bon, bah, moi, ça fait 25 ans que je me vaccine chaque mois. Ça me fait 25 ans que je me vaccine tous les mois d'octobre ou tous les mois de novembre contre la grippe. Et ça a été efficace, voilà. Et c'est efficace, me semble-t-il, pour ceux qui le font.
Le dernier vaccin que j'ai eu, c'est à l'armée, en 82. Mais... Depuis, j'en ai pas eu.
Mais écoutez, 1982 ?
Oui.
Non, mais c'était pour rire. Jean-Charles, moi je comprends, je vous assure, on peut tout comprendre et on peut tout entendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans ce que vous dites. Moi, là, pour le coup, je peux rien pour vous. Je peux pas vous convaincre.
Ah ben non, mais vous me convaincrez pas.
Bah oui. Mais et je vous dis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ? Et si ça peut accélérer l'ouverture, si ça peut accélérer les cinémas, si ça peut accélérer de reprendre une vie sociale, bah je me dis que je ne vois pas le risque.
On rentre dans un chantage sanitaire, moi je trouve.
Ben c'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord, Jean-Charles.
On rentre dans un chantage sanitaire et à ce moment-là, franchement, je pense que là, il faut que le peuple se réveille, quoi.
C'est pas une guerre civile non plus, Jean-Charles.
J'ai pas dit que c'était une guerre civile. Mais je pense que s'il faut que l'opinion publique essaye de s'informer et de pas boire les paroles de tout un tas de gens. Hein.
Bon, en tout cas, si on voulait synthétiser cette première heure, manifestement, tous ceux qui nous ont appelés, soit sont contre ce vaccin, soit trouvent que c'est inadmissible d'enfreindre leur liberté, et cet article de loi va poser évidemment problème. Il est 13h58, ça va être le journal de 14h dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Simone qui est déjà là. En un mot, Simone.
Oui.
En un mot.
Oui.
Bonjour Simone.
Alors, bonjour Monsieur Praud. Mmh. Je commence par préciser que avant de partager mon opinion avec vous, je commence par préciser que je suis depuis le début de cette crise sanitaire très gênée par ce que j'appelle moi une dictature sanitaire.
Eh bien, vous nous expliquerez pour cela. Mais juste après le flash, puisque c'est l'heure du flash avec Thomas Dulin. Mais comme nous n'aimons pas perdre le fil avec les auditeurs, vous êtes toujours présent à chaque minute de l'émission. À tout de suite, Thomas, pour le moment.
Les premières doses du vaccin anti-Covid devraient être administrées dès dimanche en France. Il ne manque plus que le feu vert de la Haute Autorité de Santé. Elle devrait se prononcer d'ici la fin de la semaine. La distribution des doses se fera sous haute surveillance. Les autorités craignent des vols et des actes de malveillance. L'Allemagne prolonge la fermeture de ses frontières avec le Royaume-Uni. Prolongation jusqu'au 6 janvier au moins, alors qu'une nouvelle variante du virus sévit outre-Manche. À l'heure actuelle, pas de preuve de l'inefficacité du vaccin face à cette variante du virus. Si besoin, le laboratoire BioNTech se dit capable de fournir un nouveau remède en 6 semaines. L'Union européenne et l'OMS tentent d'harmoniser les mesures mises en place par leurs États membres pour empêcher une propagation de cette variante du coronavirus. Les professeurs Raoult et Perron visés par une plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins en cause des propos jugés controversés sur l'épidémie de Covid-19. Didier Raoult au cœur d'une polémique pour avoir étrié la gestion de la crise par les autorités. Quant à Christian Perron, il avait de son côté affirmé que les malades du Covid représentaient une aubaine financière pour les médecins. Et puis la justice valide le retrait de Mediapro. Le groupe sino-espagnol va donc bien arrêter de diffuser les matchs du championnat de foot français. Les droits de la Ligue 1 sont donc donc réattribué pour le moment à la Ligue de football professionnel. La LFP qui va devoir trouver un nouveau médiateur, le nom de diffuseur, le nom de Canal+ est déjà évoqué. Mediapro, via sa chaîne Téléfoot, diffusera les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à la réattribution de ses droits télé.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Merci Thomas. Donc Simone parlait de dictature sanitaire et le mot sans doute, l'expression est forte, en tout cas elle nous fait réagir. Elle est enseignante, elle va poursuivre dans une seconde sa démonstration. Mais Laurent Tessier recadre, si j'ose dire, le sujet pour la prochaine demi-heure.
C'est une nouvelle polémique qui monte depuis ce matin autour de la vaccination. Emmanuel Macron avait pourtant été très clair lors de son allocution du 24 novembre.
La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.
Mais une nouvelle est passée par là et sème le doute depuis quelques heures.
Un début de polémique autour du projet de loi du gouvernement sur l'état d'urgence sanitaire. La droite et le Rassemblement national s'indignent d'une possibilité d'exiger un vaccin pour se déplacer alors que celui-ci n'est pas obligatoire.
Un projet de loi qui institue un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires et un point particulier a entraîné la colère de l'opposition. L'article 31-31-9, section 2, sixième paragraphe.
Il y a un article qui concentre toutes les critiques. Le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes, leur accès au transport ou à certains lieux, à la présentation des résultats d'un test de dépistage, y compris à l'administration d'un vaccin.
Début de polémique, l'opposition dénonce une dictature sanitaire. Le numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, s'insurge. Là, écrit-il, l'exécutif aurait tout pouvoir pour suspendre nos libertés sans contrôle du Parlement. Inconcevable, ce sont ses mots sur Twitter. Colère aussi de Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national, chez nos confrères de France 2.
Hier, nous avons découvert un projet de loi dans lequel il y a quelques lignes qui vous indiquent que si vous n'êtes pas vacciné, alors vos libertés vont se restreindre. Moi, je crois que tout ça est très dangereux. C'est juridiquement complètement ridicule.
Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, parle d'une remise en cause totale et scandaleuse de la liberté vaccinale. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a pris la parole dans la matinée.
Ce projet de texte de loi, qui n'a pas encore été donc discuté au Parlement, c'est un projet qui peut concerner aussi bien cette pandémie que n'importe quel autre événement sanitaire majeur qui pourrait toucher notre pays. Vous comprenez ? C'est un texte qui a vocation à durer pour les années ou les décennies si jamais une catastrophe sanitaire devait intervenir.
Mais sur cet article polémique, que doit-on vraiment comprendre ? Tendez bien l'oreille.
Je le redis, la vaccination contre le Covid-19 n'est pas obligatoire. C'était un engagement du président de la République, du Premier ministre. J'ai eu l'occasion également de le rappeler. Donc nous sommes là dans l'examen d'un texte. Ne vous inquiétez pas.
Ouais, ne vous inquiétez pas. Alors se faire vacciner pour se déplacer, qu'en pensez-vous ? Vous sentez-vous attaqué sur votre liberté ? Se dirige-t-on vers la vaccination obligatoire ? Le gouvernement a-t-il créé une polémique inutile ?
Deux jours avant Noël et en plein débat sur la stratégie vaccinale, l'exécutif s'offre une nouvelle polémique et donne aux anti-vaccins des raisons de douter.
Cet article va-t-il justement relancer les anti-vaccins ? Avec nous, Sacha Houlier, député La République En Marche de la Vienne.
Je le salue, Sacha Houlier, député donc de La République En Marche. Vous ne vous êtes pas fait que des amis, Sacha Houlier, ce matin, si j'en juge par tous les auditeurs qui nous appellent. C'est une levée de bouclier contre cette loi, ce projet de loi, liberté attaquée, le vaccin effectivement qui deviendrait obligatoire, c'est un biais en tout cas. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voterez d'abord vous ce projet de loi ?
D'abord, j'aimerais qu'on remette un peu les choses à l'endroit. Bonjour Pascal.
Bonjour.
J'aimerais vous dire plusieurs choses. Le projet de loi qui va être étudié au Parlement au début de l'année 2021, il ne concerne pas en l'état l'état d'urgence sous lequel nous sommes et qui court jusqu'au 16 février. Donc les mesures, elles ne seront pas applicables au lancement de la campagne de vaccination.
Oui, alors si vous m'expliquez que c'est une loi qu'on n'appliquera pas,
non,
c'est un élément de langage.
Je vais vous dire très précisément pourquoi. Parce que la campagne de vaccination, elle commence le 27 décembre, et donc elle est tout à fait volontaire et libre. Elle concerne d'abord les personnes qui sont en EHPAD, soit parce qu'elles y travaillent, soit parce qu'elles y résident. Et ensuite, avec différentes phases, en février et en avril, ça a été précisé.
Donc
ensuite,
cette loi ne s'appliquera pas à l'épidémie que nous traversons.
À ce stade, l'état d'urgence sanitaire est décrété jusqu'au 16 février Et donc, comme elle ne sera pas adoptée avant le 16 février, elle ne concernera pas la campagne de vaccination que nous connaissons pour ses débuts. Première chose. Deuxième chose.
Mais pardonnez-moi, cette loi, c'est pas la campagne de vaccination. C'est une fois qu'on est vacciné, c'est ensuite.
Je continue. Pourquoi cette loi est nécessaire?
Mais je comprends pas. Donc, quand je comprends pas, je pose une question. Oui, je comprends pas pourquoi le 16 février, le Premier ministre ne peut pas dire, une fois que la loi est votée, si elle est votée par exemple le 16 février ou le 1er mars, une fois qu'elle est votée, cette loi, il peut dire ceux qui ont été vaccinés entrent dans un restaurant et ceux qui ne sont pas vaccinés n'entrent pas dans un restaurant, ou alors j'ai pas compris.
Bah parce qu'il y a deux conditions, il faut que la loi soit votée, et on ne sait pas si elle sera votée le 16 février, il faut que l'état d'urgence ait été décrété, et jusqu'à présent, pour que l'état d'urgence soit décrété, il faut que le Parlement l'autorise, ce que le Parlement a autorisé jusqu'au 16 février, c'est la première raison. Pourquoi cette loi, elle est nécessaire?
Mais tout le monde ne sera pas vacciné.
Mais si vous ne me laissez pas parler, on ne va pas y arriver.
Mais oui, mais parce que ce n'est pas clair. Pardonnez-moi, vous êtes en train de nous dribbler, ce n'est pas clair votre truc.
Non,
vous nous
non,
dites que
non.
Cette loi, déjà,
si,
elle,
si
elle est là,
entendre,
mais elle ne sera pas appliquée. Donc.
Si vous voulez pas entendre, moi
je veux comprendre surtout.
Très bien. Donc ensuite, deuxième élément, cette loi, elle vise à remplacer une loi que nous avons prévue pour disparaître au 1er avril. Pourquoi ? Parce que quand nous avons fait une loi sur l'état d'urgence, nous en avons prévu la temporalité. Nous avons prévu qu'elle disparaîtrait à terme. Et ça précise les raisons pour lesquelles c'est pas une dictature sanitaire, puisque toutes les choses ont une fin, toutes les choses ont une échéance, et toutes ces mesures exceptionnelles, elles doivent à un moment donné disparaître.
Je comprends toujours pas le rapport avec ma question. Bon, on va laisser passer une page de pub et puis on va revenir, Sacha Houlier, et puis on va discuter avec Simone et puis on va essayer de comprendre et d'avancer. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Sacha Houlier est avec nous, c'est le député de La République En Marche et il va nous dire le sens, effectivement, de cette loi qui est préparée. Mais Simone, nous retrouvons Simone qui a écouté Monsieur Houlier. Et alors, je rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas à l'écoute pendant la première heure, que nous parlons d'un projet de loi, un vaccin pour se déplacer, et que dans ce projet de loi, le Premier ministre pourrait subordonner les déplacements des personnes, mais aussi l'accès aux moyens de transport, à certains lieux, au fait d'avoir un vaccin. On n'entrerait pas sans vaccin quelque part. Simone, c'est à vous.
Oui, je vous disais tout à l'heure que je commence par préciser que je vis personnellement très mal toutes les mesures restrictives auxquelles nous sommes soumis et que j'ai craint depuis le début une dictature. Je le dis franchement. Ceci dit, je ne comprends pas ce matin, aujourd'hui, cette levée de boucliers contre ce projet de loi. J'y vois une injustice et une contradiction. J'ai accepté de porter le masque, j'ai accepté de me laver les mains en permanence, j'ai accepté qu'on nous confine, j'ai accepté qu'on nous ferme tous les lieux de vie sociale. J'ai accepté de me vacciner contre la grippe parce qu'il ne fallait pas engorger les hôpitaux. Parce qu'on m'a répété, c'est par solidarité, tu te protèges et tu protèges les autres. Et même si je ruais dans les brancards, je l'ai fait. Aujourd'hui, on nous propose un vaccin qui permet de nous protéger, mais aussi de protéger les autres. Et là, tout d'un coup, la solidarité, elle ne s'exerce plus. Et les réactions d'opposition au vaccin, je les trouve assez égoïstes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est moi, personnellement, je ne suis pas scientifique. Et je fais confiance aux scientifiques qui élaborent des vaccins. Je fais confiance aux médecins, même s'ils m'agacent depuis le début parce qu'ils restreignent ma liberté. Mais je leur fais confiance. Si c'est pas à eux que je fais confiance pour fabriquer ces vaccins et nous protéger.
Je comprends, Simone, effectivement, l'essentiel du message. Alors, Monsieur Houlier peut peut-être répondre et donner son avis sur ce témoignage.
Bah d'abord, je remercie madame pour les mots qu'elle a tenus, y compris même si elle a une certaine défiance vis-à-vis de certaines mesures. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il y a la loi qui concerne le Covid. Et ça, c'est la loi sur laquelle on travaille aujourd'hui. Et il y a la loi pour l'avenir, en disant s'il y a d'autres épidémies, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a besoin d'un texte ? Et le texte dont vous parlez, le texte qui prévoirait des obligations vaccinales, c'est pour l'avenir. C'est pour d'autres.
Et l'avenir, crises. C'est demain, c'est ce qu'on disait. S'il est adopté, et on peut l'appliquer immédiatement. Et
s'il est adopté, à la réserve qu'il y ait un état d'urgence sanitaire, puisque vous savez qu'il y a d'ores et déjà eu des situations dans lesquelles soit on a l'état d'urgence sanitaire, ce que nous avons eu, par exemple, jusqu'en juillet, soit on a une phase de sortie de l'état d'urgence sanitaire, et dans cette phase de sortie, les obligations, elles sont moins fortes. Et donc le but, c'est d'avoir des obligations moins fortes qui ne prévoient pas ces dispositions
mais
de l'état d'urgence.
C'est là qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, monsieur Houllier, si ça arrive aujourd'hui. Je veux bien qu'on m'explique que c'est pour une pandémie imaginaire qui arriverait dans 3 ans alors qu'on est en pleine pandémie. Mais convenez que vous allez avoir du mal à nous convaincre quand même.
Mais moi, je veux bien vous convaincre.
Je veux dire, ça arrive précisément en pleine pandémie. Moi, je vous dis que si ce texte est appliqué le 15 janvier ou le 15 février, je n'en sais rien, il est applicable immédiatement le 1er avril et qu'au printemps, vous aurez peut-être ce texte entrera en vigueur. Est-ce que ce que je dis est faux ?
La différence dans ce que je vous dis et ce que vous me dites moi, c'est que vous préférez entretenir la polémique et moi je parle juridique.
Oh non, c'est-à-dire non, dites pas ça, monsieur. Non, dites pas ça. Non, ça c'est pas bien. J'essaye pas d'entretenir du tout une polémique. J'essaye de comprendre. Et au contraire, si vous m'écoutez depuis 13 heures, je prône. Comment dire ? J'explique au contraire que le vaccin est utile. Donc, franchement,
il y a déjà eu un débat à l'Assemblée nationale pour préciser et pour affirmer et pour dire à tout le monde, comme ça a été dit par le président de la République, que le vaccin serait volontaire, donc pas obligatoire, que cette campagne de vaccination, elle commence la semaine prochaine, elle commence dans des conditions qui prévoient la base du volontariat et elle se poursuivra sur la base du
volontariat. J'entends bien, mais ce matin, il y a disposition. Salim est avec nous et je lui demande d'intervenir, Salim, parce que c'est à lui de mener, pourquoi pas, la discussion avec vous, avec monsieur Houllier. Bonjour Salim.
Oui, bonjour messieurs. Alors, déjà, je vais commencer en disant, moi, je suis pas du tout un complotiste, d'accord, messieurs. Par contre, ce que le gouvernement va faire avec cette loi, c'est qu'il va ouvrir deux portes de Pandore. Déjà, un concernant les complotistes, qui je les écoute, il y en a quelques-uns, enfin, voilà, qui disent, ah, regardez, etc., etc. Mais deuxièmement, la chose la plus sérieuse, c'est que demain, si le vaccin va devenir obligatoire, qu'est-ce que vous allez faire contre si des personnes, ils ont des effets secondaires, ou imaginons, si des personnes contractent des maladies qui sont en aucun cas en rapport avec le vaccin, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens, ils vont se retourner contre l'État en disant, toi, l'État, tu m'as obligé à me faire vacciner, aujourd'hui, je t'attaque parce que aujourd'hui, je suis malade et personne ne peut prouver que ma maladie n'est pas liée à cette vaccination. Pourquoi ne pas obliger à faire les tests PCR ? Moi, si demain, on dit que c'est obligatoire de faire les tests PCR avant d'aller à un restaurant, il n'y a aucun souci parce que le test PCR n'est pas invasif. C'est-à-dire qu'on va m'enlever quelque chose pour tester. Il n'y a aucun souci que je le fasse toutes les semaines, moi personnellement. Par contre, le vaccin, c'est quelque chose d'invasif. On va m'obliger à mettre un produit dans mon corps. Donc aujourd'hui, personne n'a assez de recul pour dire, voilà, si, imaginons que moi, au mois d'avril, on me fait vacciner obligatoirement. Je suis contre le vaccin, mais et que dans un an, j'attrape une maladie, mais qui n'aura rien à voir avec le vaccin, qui j'aurai tous mes droits en disant, voilà, moi j'attaque l'État en disant que c'est à cause du vaccin que je suis malade. Imaginez tous les cas qu'il va y avoir en France. Moi, c'est un risque. Hein. Le gouvernement ne se tire pas une balle dans le pied.
Bah justement, on va continuer cette discussion avec monsieur Houllier et puis essayer de bien comprendre, puisque manifestement, nous avons du mal à être sur la même longueur d'onde sur le sens de cette loi qui pourrait être votée. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous sommes toujours avec Sacha Houllier qui est député de La République en marge de la Vienne. Et nous sommes toujours sur ces fameux articles 331.9, 6e paragraphe. Le Premier ministre qui pourrait subordonner les déplacements des personnes à un vaccin. Nous sommes avec Sylvie, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Et vous allez pouvoir échanger avec Monsieur Houllier.
Ben échanger, oui, peut-être, mais pour vous dire que moi je suis d'accord. Au fait qu'on subordonne les déplacements au vaccin.
Pourquoi ça ?
Eh bien, parce que ça permettrait de rouvrir certainement plus rapidement les commerces, enfin les cinémas, les restaurants et tout ça.
Et effectivement, c'est une tendance qui a été assez peu répandue depuis 13 heures.
Moi, je suis plutôt
d'une certaine manière de votre avis. Au fond, je trouve que c'est ce que je défends, que le vaccin pourrait tous nous réconcilier. Alors, il y a eu beaucoup de débats sanitaires, mais au moins on pourrait se réconcilier sur le vaccin. Mais Monsieur Houllier, je vois que vous voulez réagir.
Oui, alors d'abord, sachez que dans la loi, il y a une obligation qui existe déjà, par exemple, par rapport à un traitement, c'est celle de faire un test PCR avant de prendre des avions.
Bien sûr.
Et ben, ça, c'est une transposition qu'on pourrait donner. Je pense que ce ne serait pas possible, juridiquement parlant, de conditionner l'accès à des théâtres, à des musées ou à des salles de spectacle à l'administration d'un vaccin, parce que ce serait jugé comme disproportionné s'il y avait un recours devant le Conseil d'État.
En revanche, c'est pas le texte, ça.
Ah, parce que quand vous regardez le texte tel qu'il est écrit et tel qu'il a été apprécié par le Conseil d'État a demandé à ce que ce soit limité à certains lieux ou certaines activités. Et ben c'est au gouvernement de le définir par décret et de le limiter très strictement.
Oui, mais par exemple, les restaurants, oui ou non ?
Les restaurants seraient plutôt non. Moi, de ce qu'on a l'appréciation, serait plutôt non, parce que ce serait disproportionné. Qu'est-ce qui serait proportionné ? Ben, ce serait de dire que si vous avez une visite à faire en EHPAD, là, on pourrait dire... Dans ces circonstances, vu le personnel qui est fragile, vu.
Mais pourquoi vous le dites pas en début, ça, monsieur Houllier, ça rassure tout le monde?
Mais parce que le but du texte, initialement, c'est pour les crises à venir. Il n'est pas pour être employé pour cette crise-là.
Oui, mais là, on n'est pas d'accord. Vous savez bien que. Enfin, monsieur Houllier, vous n'êtes pas un enfant, un lapin de trois semaines. S'il sort ce texte aujourd'hui, tout le monde va l'interpréter comme un texte pour aujourd'hui, quand même.
Oui, effectivement.
Sauf que dans le parcours législatif, dans la loi, on ne décrète pas une loi. Elle passe tout un processus législatif.
Mais
elle est examinée,
elle
est amendée.
Mais déjà, ce que vous dites là, de manière à rassurer. Si, les lieux, alors ça serait pas... Certains lieux, ça pourrait être... Parce que les gens fantasment. Ils disent que ça va être un stade de foot, ça va être le restaurant, ça va être, que sais-je, un théâtre. Si vous me dites que ces lieux ne sont pas là, concernés...
Ah ben c'est même ce qui est écrit dans les dispositions. Certains lieux ou certaines activités sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisi à tout moment pour examiner les obligations qui sont...
Donc les lieux, vous m'avez dit l'EHPAD, quel autre exemple de lieu pourrait être soumis à la vaccination ?
Ça, ce ne sont que des suppositions, parce que, pour le coup, ça ferait l'objet d'un décret en Conseil des ministres.
Mais j'entends bien, mais moi je vous pose des questions simples pour nos auditeurs. Quel lieu serait soumis, par exemple, à la vaccination ?
Mais à ce stade, aucun. Tant qu'il n'y a pas de
loi. Pourquoi écrire que le Premier ministre peut, le cas échéant, subordonner des déplacements ? C'est ça qui est... Pourquoi se payer une polémique, au fond, s'il n'y a rien ? Vous encouragez d'une certaine manière la suspicion.
Non, mais précisément parce que le texte, comme le dit le ministre Véran, le texte, il est une boîte à outils pour l'avenir, pour tirer toutes les conséquences de ce qu'a été cette crise et de ce que devrait être la réponse des pouvoirs publics si une nouvelle survenait.
Bon, qu'en pense Sylvie ?
Eh ben, je sais pas parce que je comprends pas très bien. Enfin, toujours est-il, moi, je pense qu'il faut se faire vacciner. Bon, on sait qu'il y a des risques. Moi, je vais me faire vacciner. Je vais pas y aller la fleur au fusil, hein, parce que. Mais il faut le faire pour la société. Et je trouve qu'aujourd'hui, chacun réagit pour lui-même et ne réagit pas en collectif. Et ça, c'est dramatique. Et on va à un écroulement de la société par ses façons de faire.
Bon, ben merci beaucoup, Sylvie. Merci. Un dernier témoignage, peut-être celui d'Olivier, qui peut là aussi donner son avis. Il est artisan à Auxerre. Vous nous écoutez cette demi-heure. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, j'en pense que je suis un petit peu... Enfin, je ne vais pas dire globalement, je suis sur le cul d'entendre tout ça, mais quelque part un peu quand même, parce que... si c'est pas preuve d'amateurisme à travers tout ça, je sais pas ce que c'est, parce que là, franchement, j'étais presque converti, je veux dire, en début de demi-heure, mais alors là, je suis complètement, c'est sens à l'envers, quoi. C'est-à-dire... Et pourtant, je suis pas du tout pour me faire vacciner, puisque moi, je suis pas, c'est pas que je suis pas un anti-vaccin, mais c'est que simplement, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de recul, tout simplement, sur ce vaccin. Après, si on m'apporte la preuve dans quelques mois, dans quelques même un an, qu'il y a aucun effet secondaire, aucune maladie qui se déclenche, il n'y a aucun problème. Moi, je suis partant. Mais alors, en plus de ça, quand on écoute le député là, on a l'impression encore une fois que Bah, je sais pas, mais on nous prend quelque part pour des benêts, quoi, parce qu'on vous dit qu'on va mettre quelque chose en place, mais c'est juste pour un temps donné. Mais on sait tous très bien qu'une fois que ça va être inscrit, ça va être inscrit. Enfin, il y a un moment, faut arrêter de jouer comme ça globalement avec le.
Monsieur Houllier vous répond très rapidement parce qu'on est en retard. Monsieur Houllier.
Bah, d'abord parce que monsieur aura le temps de se faire son avis, parce qu'il doit être dans la troisième vague de vaccination à partir du mois d'avril, donc il aura le temps de se faire un avis sur le vaccin, sur cette question. Et ensuite, oui, moi je suis désolé, les textes que nous votons, ils n'ont pas d'effet immédiat, ils préparent un avenir, ils tirent les conséquences de ce qui s'est passé, et effectivement, par rapport à la vaccination qui aura lieu dès le mois de décembre, dès le 27 décembre, il n'y aura aucune obligation pour quiconque, et aucune obligation pour aller où que ce soit. C'est la réalité des choses.
Eh bien, merci, et merci d'avoir répondu avec franchise à des questions qui le sont tout autant, monsieur Houllier, mais c'est un peu le jeu de nos discussions. On cherche à comprendre dans le meilleur état d'esprit possible, bien évidemment. Je remercie Greg Caranoni, je remercie également le camarade Tessier qui était là. Et dans une seconde, on aura le verdict.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.